Vous écoutez France Musique. Miniature. Bonjour et bienvenue dans cette série de miniatures consacrée toute cette semaine au compositeur Patrick Burgand que vous allez pouvoir entendre le 19 mai prochain à la Halle au Grain à Toulouse. Patrick Burgand, bonjour. Nous évoquions hier cette œuvre Nativité que nous allons entendre le 19 mai prochain et j'ai l'impression qu'à l'écoute de votre musique, on décèle souvent un caractère qui est indéniablement théâtral, autant dans les œuvres vocales qu'instrumentales. Il semblerait que votre conception de la musique, de la composition, disons, soit une sorte de théâtre de la vie, je dirais.
Oui. Je pense que vous le résumez à merveille, là, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai la conviction que dans le déroulement d'une œuvre, une œuvre est un moment de théâtre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a son amorce, ses péripéties, sa dissolution, sa résolution. Il y a toujours un élément dramaturgique, que ce soit même une petite pièce de 5 minutes pour clarinette, c'est vraiment un acte de théâtre qui se passe. C'est en tout cas comme ça que je conçois la
composition. Mais j'ai l'impression que la musique a toujours été construite sur cette idée-là. Pour prendre, par exemple, c'est peut-être un terme que tout le monde connaît, quand on prend la forme de la structure de la sonate chez les classiques, c'est une opposition d'un personnage rythmique, un personnage mélodique, et puis il commence dans le développement à s'agiter, à se construire une histoire. C'est peut-être Mozart qui a construit le plus beau théâtre de la vie dans ses personnages.
Oui. Non, mais j'ai la conviction que c'est quelque chose qui est...
C'est toujours ça aujourd'hui.
Bien sûr. J'ai la conviction, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est inhérent à la musique, mais quand même, par une certaine modestie, je dis que ça me concerne, parce que je ne veux pas généraliser aussi quelque chose qui s'avérerait faux.
On va y revenir, parce que souvent, on pense qu'en matière de musique contemporaine, on n'y comprend rien, qu'il n'y a plus d'histoire.
Ah, si, il y a toujours des histoires. L'homme, de toute façon, est incorrigible, il faut toujours qu'il raconte des histoires.
Eh bien, on va vous en raconter une très belle aujourd'hui, c'est l'hymne à la nuit dans Tristan et Isolde, donc de Richard Wagner, et c'est au moment où Brangaine vient prévenir Tristan et Isolde que le jour se lève. Patrick Burgand, je vous cède la parole parce que je suis trop sous le coup de l'émotion. C'est un de mes opéras préférés.
Oui, bien sûr. On peut difficilement rester insensible à l'histoire de Tristan et Isolde. Cette magie sonore de Wagner est un compositeur extraordinaire. Je pense aimé parfois, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, haï non plus souvent pas pour les bonnes raisons, mais de toute façon, vraiment un maître extraordinaire au niveau de l'orchestration, de la pensée dramaturgique, bien sûr, ça va de soi, c'est quelque chose de phénoménal. Je trouve cette intervention de Branken particulièrement extraordinaire, c'est surtout la surprise que crée dans cet acte 2, où c'est un duo d'amour, entre Tristan et Isolde, et cette servante donc, qui est censée finalement tenir la chandelle, hein, c'est-à-dire qu'elle surveille. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu, hein, parce que évidemment les proportions sont toujours très, très vastes chez Wagner, et ça fait assez longtemps qu'on a entendu que Tristan est la voix féminine d'Isolde, et tout d'un coup, dans un moment de vertige amoureux, bon, évidemment qui dépasse même le cadre de l'amour. On est là, encore une fois, par-delà les sphères, et tout d'un coup, on entend une voix de femme. D'ailleurs, dans les opéras, l'habileté, c'est souvent qu'on ne la voit pas. Elle est cachée, elle est quelque part, et cette voix de femme qui vient d'on ne sait où, et ce n'est pas Isolde, c'est Branken. C'est un des moments les plus magiques, même au niveau musical. Il y a à la fois de la nostalgie, il y a de la douleur. C'est extraordinaire. Voilà.
Alors, on va revenir à vous. Vous avez composé une pièce d'après les sept paroles du Christ, qu'on va entendre aussi, je crois, en création. Oui. Hier, nous parlions de la Nativité. Vous écrivez pour le théâtre, vous avez écrit deux opéras. Est-ce que vous faites une différence entre l'art profane et l'art sacré? Autrement dit, est-ce que vous utilisez des moyens différents dans ces cas de figure?
Pas du tout. Pas du tout. Aucune différence entre l'art profane et l'art sacré, dans la mesure où, si vous voulez, j'utilise, c'est vrai, souvent des textes liturgiques, mais c'est pour leur force à la fois historique et littéraire, et pas du tout pour des raisons proprement religieuses, si vous voulez. C'est-à-dire que je peux écrire des œuvres, par exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle La Puerta de la Luz, sur des poèmes de García Lorca et Antonio Machado, donc des textes profanes, mais pour moi, cette œuvre est vraiment sacrée, parce qu'elle est mystique, elle parle de la vie, de la mort, et les textes religieux, souvent, parlent de problèmes universels, fondamentaux, et sont très porteurs. Mais je traite avec autant d'exigence et de fascination un poème profane, même s'il est érotique, si vous voulez, pour parler de quelque chose qui est vraiment très très loin de tout sentiment religieux, et une œuvre sacrée. Pour moi, il n'y a pas de différence dans le travail de la composition. J'adhère au texte et j'essaye de trouver ce qui est l'essence interne du texte.
Eh bien, on écoute tout de suite un extrait de votre opéra Peter Pan. Il s'agit des Fées au pays imaginaire.
Thank you.
Ces jolies fêtes, on les entend à travers ces merveilleuses voix d'enfants de la maîtrise de Paris. Et je crois que, Patrick Burgon, vous avez été confronté à quelque chose théâtralement assez particulier quand vous avez présenté Peter Pan au Théâtre du Châtelet.
Oui, oui, bien sûr, c'était un moment assez magique dans la mesure où il y avait la maîtrise de Paris, bien sûr, beaucoup de jeunes, le chœur sottovoce, le chœur d'enfants sottovoce, et il y avait surtout 600 petits chanteurs de l'Académie de Paris. Donc beaucoup d'enfants, et Jean-Pierre Bosman, à l'époque, m'avait demandé si je ne pourrais pas faire comme Britten dans Le Petit Ramoneur, faire chanter le public. Bon, alors, gros problème, évidemment, parce qu'il faut que ce soit très simple. Et j'ai trouvé la solution. Quand Clochette, la fée Clochette, hein, qui s'appelle Tintam dans l'histoire ici, quand elle meurt, un moment très dramatique, quand elle meurt, Peter Pan dit qu'il faut la faire revivre. Et pour la faire revivre, il n'y a qu'une chose, c'est que tout le monde doit chanter « Les fées existent, les fées existent, je crois que les fées existent ». Et c'était le moment, à mon avis, opportun pour que tout le monde, tout le public dise « Allez, Tintam, Clochette, relève-toi, René, voilà, c'est un moment dramatique et qui permet au public de chanter et de demander à la fée de renaître.
Eh bien, on écoute la mort de Clochette alors.
Allons-y.
Ce moment du pays imaginaire chante ensemble. Je sais que les fées existent. Je
bien, Patrick Burgan, au moins les enfants qui ont assisté à cet opéra Peter Pan savaient que les fées existaient. Je vous retrouve demain pour un nouveau volet de cette série de miniatures et maintenant vous allez retrouver le Matin des musiciens.